Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello, je suis Mélanie Wanga. Les Ukrainiens sont nos voisins en Europe, et pourtant, c'est en découvrant le reportage que vous allez écouter que j'ai compris l'ampleur de ce qui était arrivé dans ce pays en 2013, quand la guerre civile a éclaté. À cette époque, quelques ressortissants d'autres pays européens rejoignent les combats en Ukraine. C'est le cas de Sergueï Mounier, qui ces dernières semaines était membre du service d'ordre des Gilets jaunes. Les deux journalistes qui ont rencontré Sergueï Mounier, Marion Lefebvre et Manuel Oslo-Salanda, sont étudiants à l'école de journalisme de Sciences Po. Ils l'ont interrogé plusieurs fois et ont récupéré des vidéos pour nous raconter cette histoire hors du commun. Nous avons décidé de vous partager leur travail dans cet épisode de Programme B. Sergueï, du Donbass aux Gilets jaunes, c'est notre reportage du jour réalisé par Quentin Bresson.
Et à un moment donné, je crois qu'il y a eu une colonne de 40 mm, ça veut dire que c'était un tir visé et précis, qui tombait dans la tranchée, qui explosait juste devant mon visage. Mais j'avais un casque, ce qui m'avait sauvé, donc j'avais été blessé dans le bras, les jambes et dans la poitrine, un éclat qui passait sous la plaque de protection. Et il y avait trois autres mecs blessés avec moi. Donc c'était comme dans un film, hein, quand il y a une grenade qui explose et qu'on vole sur les côtés. C'était pareil pour nous.
Donc on est dans la résidence universitaire où j'habite. Qu'est-ce qu'on s'apprête à faire ?
Bah là, on va rencontrer Sergueï pour l'interviewer. Il arrive dans 7 minutes exactement. Et on ne sait pas trop comment ça va se passer en fait.
Comment est-ce que tu as rencontré Sergueï ?
C'était dans une manifestation que je couvrais à Paris. Et je voulais faire le portrait d'un membre du service d'ordre des Gilets jaunes. Donc je l'ai rejoint en fin de cortège. Il m'a raconté son histoire et je me suis dit, il faut absolument faire un truc. Sergueï, il est parti se battre dans l'est de l'Ukraine avec les séparatistes pro-russes. Donc on va essayer de connaître un peu les débuts de son engagement, c'est-à-dire pourquoi il est parti en Ukraine, ce qu'il y a fait et puis ce qu'il y a vu.
Nous sommes par là parce qu'il y a des espaces communs en fait.
Ouais.
Là, j'ai un petit local d'art en fait, il y a des personnes qui font de l'art. Il y a juste plein de tréteaux et tout, donc on peut juste s'installer à la table.
D'accord. Des bières, c'est ça. Voilà, je pensais que c'était le truc.
On a du thé aussi sinon.
Merde,
on va
se faire refaire comme un truc pour faire.
Ah, c'est bien, ça c'est bien.
On a proposé vraiment.
Donc voilà, on connaît son histoire. Il a fallu qu'on le voie deux fois pour tout comprendre et pour rien rater.
Oui, et dans ce qu'il nous racontait, on a essayé de vérifier toutes les informations qu'on pouvait. Mais son histoire est complètement dingue. Donc tout commence au moment où il a 22 ans et du jour au lendemain, il plaque tout. Il laisse sa copine, sa mère et il part faire la guerre.
Il est 7h36 sur Inter. Des images de plus en plus violentes nous viennent d'Ukraine.
Oui, on y reviendra d'ailleurs dans le journal à 8h avec ce raid en ce moment de l'armée, des tirs et de fortes détonations entendues dans les faubourgs de Slaviansk.
En Ukraine, ce brusque regain de tension. Des militants pro-russes occupent le siège du pouvoir régional à Donetsk et Kharkiv et ils réclament, comme en Crimée, un référendum d'autodétermination.
Глава первая. Уехать.
Alors, Sergueï, il n'est pas vraiment parti de manière organisée. C'était un peu un acte instinctif selon lui. Il est français, certes, mais que depuis 10 ans et par adoption. Sa mère est ukrainienne et lui, il est né à Lugansk, dans l'est de l'Ukraine.
C'était une ville industrielle pas spécialement charmante, on va dire. Donc on vivait dans des grosses barres d'immeubles de l'époque soviétique. À ce moment-là, c'était juste après la chute de l'Union soviétique. Donc tout était délabré, plus rien ne marchait. Et on passait, on va dire, la plupart de notre temps à traîner dans la rue, on se battait avec des bâtons et des cailloux. Et c'est à peu près tout ce qu'on faisait.
Et là-bas, il nous explique qu'il vivait avec toute sa famille, dans le même appartement, avec son oncle notamment, une sorte de figure paternelle pour lui.
Donc, c'était un garde-frontière, il a fait toute sa carrière en tant que militaire. Depuis son service militaire, depuis ses 18 ans. Et toujours resté dans cette voie-là. Bon, c'est un peu aussi lui qui m'a inspiré pour rentrer dans l'armée après. On va dire que c'était un petit peu l'homme de la famille. de notre grande famille à l'époque à Lugansk, puisqu'on vivait, on vivait avec ma grand-mère, ma mère, mon oncle, tous dans le même grand appartement à Lugansk. C'est ce qui faisait pas mal à l'époque. Hein. En général, les familles étaient grandes et tout le monde vivait ensemble et s'entraidait. Hein. Donc pour moi, mon oncle, j'ai un peu vécu avec lui. Hein. C'est plus lui qui m'a inspiré, peut-être pour les choses militaires, déjà.
En France, il est réserviste dans l'armée. Et en parallèle, il passe un concours pour une école de commerce à Rennes. Donc il vit en France depuis 12 ans, il a des amis français, il parle français au quotidien. Son avenir, jusque-là, se dessine en France.
Mais en novembre 2013, les Ukrainiens de l'Ouest se soulèvent. Le gouvernement de l'époque est proche de la Russie et refuse de signer un accord d'association avec l'Union européenne. Les pro-européens descendent dans la rue et renversent le gouvernement. Puis rapidement, le pays s'embrase. Des affrontements éclatent à l'Est entre les Ukrainiens russophones, qui veulent rester proches de Moscou, et les Ukrainiens de l'Ouest.
Je pense que le grand déclic, c'était... Alors au début, c'était les massacres qu'il y a eu. Par exemple, dans les manifestations, le 2 mai, il y a eu à Odessa, il y avait des manifestants, je crois, pro-russes et plutôt de la mouvance communiste à l'époque. Ils avaient été encerclés dans le bâtiment des syndicats à Odessa. Et on ne sait pas vraiment. Moi, en tout cas, il y a un feu qui s'est déclaré dans le bâtiment. Il y a 40 personnes qui sont mortes, brûlées vives à l'époque.
Ces militants pro-russes essayent désespérément d'échapper à la fumée, aux flammes. Ce bâtiment était leur refuge. Il devient un enfer.
Au total, 43 personnes meurent ce jour-là. Les occupations de bâtiments gouvernementaux se poursuivent dans toute la région et des hommes armés apparaissent parmi les manifestants. Les forces ukrainiennes essaient de les déloger.
Putain, t'es con, toi, vas-y.
À partir de là, la guerre commence.
Planque-toi.
Comme il fallait faire son devoir à ce moment-là, donc on appelait aux volontaires et je suis parti à ce moment-là. Malgré le fait que mon oncle combattait de l'autre côté à ce moment-là. J'ai pris une carte, tout simplement. J'ai vu quels étaient les territoires contrôlés par la rébellion. Donc, il y avait l'aéroport le plus proche, c'était Kharkov. J'ai pris un billet d'avion aller simple là-bas. J'ai pris un sac avec quelques affaires. J'avais juste des gants tactiques. Et j'avais rien d'autre de militaire dans mon sac.
Глава вторая. Бороться.
À son arrivée dans la ville de Donetsk, Sergueï, qui n'a donc que 22 ans, raconte qu'il est chargé de la formation de dizaines de combattants.
J'avais une peur permanente du fait que t'as quand même des centaines de personnes qui te font confiance et qui comptent sur toi pour que eux survivent une fois au front. Sachant qu'à l'origine, j'ai passé 3 semaines à entraîner les gens sans aller moi-même au front. Ça veut dire que je connaissais même pas la réalité du terrain et je devais entraîner ces gens-là. Ça veut dire que toutes les pertes, c'était pour ma gueule à l'époque. Au niveau technique, on apprend juste le maniement des armes à ces gens-là. On apprend à se coucher, à s'abriter au moment des bombardements. On poussait pas non plus les entraînements parce qu'on pouvait pas le faire. Tout simplement, t'avais 30 mecs qui arrivaient, on avait une semaine, voire quelques jours pour les former, et ensuite on les envoyait au front. C'était une usine en fait.
Les recrues qu'il décrit n'ont rien de soldats. Il y a parmi eux des locaux, des étrangers, équipés de quelques fusils d'assaut, comme de piques en bois ou de gourdins.
Non, il n'y avait rien de professionnel. Par contre, l'ambiance était, révolutionnaire. Et on va dire, il y avait ce petit côté hors-la-loi à l'époque, puisqu'on avait la ville encerclée par les troupes ukrainiennes. Et on savait que tôt ou tard, il allait y avoir une offensive et qu'on allait se faire défoncer, parce qu'on n'avait absolument rien pour se défendre. Et donc, il y avait une espèce d'ambiance de ce genre-là, oui. Il y avait beaucoup de ferveur, des gens qui s'engageaient.
Pendant ce premier séjour en Ukraine, on est dans la phase la plus intense de la guerre. C'est l'époque des grandes offensives, où les soldats tombent sous les balles et les obus par dizaines.
Quand tu entends les bombardements qui arrivent, tu ressens quelque chose comme une espèce de peur primitive. T'as tes jambes qui sont cisaillées, t'as juste envie de tomber par terre et de rester comme ça sans bouger. Y a des gens qui sont vraiment tétanisés par la peur. Ça veut dire que quand il y a des bombardements, bah les gens qui sont, comme je dis, qui sont déchiquetés en morceaux, c'est les gens qui ne se couchent pas pendant les bombardements. Parce que quand un obus se plante dans la terre, il explose vers le haut. Ce qui fait qu'il faut juste se coucher. Ça veut dire que si un obus tombe à 5 mètres de toi, tu vas être sonné, mais tu ne vas pas avoir des éclats. Et donc les gens qui restent debout, c'est eux qui se font déchiqueter. Et ils restent debout parce qu'ils sont tétanisés par la peur.
Dans l'action, on est dans l'activité militaire, on va dire, dans le combat. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On ramasse les morceaux et on continue à faire ce qu'on faisait, quoi. Et donc c'est vrai que beaucoup de gens peuvent paraître assez durs ou n'éprouver aucun sentiment dans ces situations-là. Bon, ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sans âme et sans cœur. Mais après, dans ces situations-là aussi, on est, je ne sais pas si on déconnecte, hein, si c'est fait exprès, justement, si on a cette capacité qui nous permet de survivre dans ces situations-là aussi. Hein.
Sergueï nous raconte qu'il perd vite des compagnons, mais à aucun moment il n'acceptera de parler des soldats de l'armée ukrainienne qu'il aurait pu tuer. Nous avons trouvé plusieurs vidéos sur son compte Vie Contactier, le Facebook russe. L'une d'entre elles aurait été prise après une attaque ukrainienne. Nous avons montré la vidéo à Sergueï pour qu'il nous explique la situation telle qu'il la connaît.
On est sur une petite route de terre qui traverse un pré, près du village de Grabskoye, dans l'est de l'Ukraine. La voix qu'on entend, c'est celle de celui qui filme avec son portable, un des camarades de Sergueï.
Au sol, les restes de 3 cadavres calcinés, dont 2 encore fumants. La scène paraît irréelle. Les corps sont orange vif, incandescents.
Les morts sont étendus près de la carcasse noircie d'un véhicule.
Ce qu'on voit, c'est un bus qui ramenait la relève, simplement pour relever les mecs qui étaient sur le checkpoint. Seulement, comme c'était l'encerclement n'était pas toujours parfait, hein, et qui se faisait souvent en sous-nombre aussi par rapport à l'ennemi, donc parfois on pouvait se retrouver avec un char ennemi dans le dos. Hein. Et c'est ce qui s'est passé là. C'est que la relève qui est arrivée sur le checkpoint est tombée sur un char ukrainien qui a tiré dans le bus.
Le long du chemin, des hommes en treillis se reposent. Parmi eux, 2 blessés ensanglantés.
Ouais, voilà lui, ça c'est Makar. Ce qui l'a sauvé sur le coup, c'est qu'il était en train de sortir du bus, ce qui a fait que l'explosion l'a projeté vers l'extérieur. Voilà, mais il a eu les 2 bras et les 2 jambes sectionnés, la colonne vertébrale aussi, et il avait été amené dans un hôpital à Saint-Pétersbourg, un hôpital militaire, parce que là-bas ils sont spécialisés en blessés de guerre. Mmh. Et justement, moi à ce moment-là, j'étais déjà en train de rejoindre la France,
au moment de cette vidéo. Pas là, en fait.
Voilà. J'étais pas sur cette rotation-là, là j'étais déjà à Donetsk et je me préparais à partir. Voilà. Du coup, j'ai pas assisté à ça. Alors, à ce moment-là, j'avais pas de visa russe. Et donc, je pouvais revenir seulement par le territoire ukrainien. Et donc, j'avais fait un bain de vodka pour effacer les traces de poudre sur moi. Et je suis monté sur un train en direction de Kiev. Il y avait des maghrébins qui travaillaient à Donetsk, qui étaient en train de fuir Donetsk à ce moment-là. Et je me suis greffé avec eux. Et je suis allé à Kiev par train. Donc j'ai passé 2 jours à Kiev après. J'ai revu quelques anciennes connaissances sur place et je suis rentré chez moi.
En septembre 2014, Sergueï rentre en France après 3 mois de combat à l'Est. Il entame une licence dans une école de commerce à Rennes. Mais comme certains prennent un job d'été, Sergueï, lui, part faire la guerre. Tous les ans, jusqu'en 2016, de juin à septembre, il se bat pour ce qu'il considère être son pays. De la tranchée à l'amphi, la transition est assez rude.
Eh bien, on est un peu en extraterrestre. Ça veut dire qu'il y a, je sais pas, il y a un étudiant, il vient enfin de sortir de chez ses parents, il commence à boire des bières et il se sent rebelle. Hein. Donc c'est vrai que c'était vraiment difficile de trouver des sujets de conversation avec ces gens-là. Ça, c'est vrai. Sachant que de notre côté c'est beaucoup plus facile avec les filles parce que forcément on sort beaucoup plus du lot par rapport à l'étudiant de base sur place. Donc c'est oui, il y a des bons côtés comme des mauvais, hein. Mais il y a quand même on va dire pour moi les années à l'école de commerce C'était vraiment la corvée, c'était la partie chiante de l'année à faire. Enfin, moi, je m'ennuyais énormément.
Quand il est en Ukraine, Sergueï explique qu'il va un peu d'un front à l'autre parce qu'il cherche à être au plus près du feu. Et un jour, il s'approche un peu trop.
Con, toi, vas-y.
Plante-toi. Attends.
Il faut s'imaginer donc une tranchée avec les troupes ennemies qui arrivent en face, hein, sur lesquelles tu tires. Et à un moment donné, tout simplement, tu te fais arroser par des grenades, par l'artillerie en permanence. Et on va dire que tu es. Tu passes juste ton temps à tirer. Donc voilà, ça a duré 5 heures. Tu passes juste ton temps à tirer sur les mecs qui arrivent en face. Et les seuls moments de repos, c'est le moment quand tu recharges tes chargeurs. Quoi. Et tu fais ça pendant 5 heures.
Juste là.
Et à un moment donné, je crois qu'il y a eu une grenade de 40 mm, ça veut dire que c'était un tir visé et précis, qui tombait dans la tranchée, qui explosait juste devant mon visage. Mais j'avais un casque, ce qui m'avait sauvé, donc j'avais été blessé dans le bras, les jambes et dans la poitrine, un éclat qui passait sous la plaque de protection. Et il y avait 3 autres mecs blessés avec moi. Donc c'était comme dans un film, hein, quand il y a une grenade qui explose et qu'on vole sur les côtés. C'était pareil pour nous. Et après, j'avais pris un éclat dans le pied aussi, et donc je pouvais plus marcher. Donc j'avais juste sauté sur une jambe pour rejoindre l'ambulance là, qui m'a amené à l'hôpital. Je suis arrivé à l'hôpital. Alors à l'hôpital, ils n'avaient pas d'anesthésiant. C'est vrai qu'ils m'ont juste nettoyé les plaies, ils m'ont juste retiré l'éclat du pied parce qu'il me faisait mal, je pouvais pas marcher. Sinon, ils ont gardé tous les éclats que j'ai dans le corps. Parce que sinon, ils ont dit, bon, on peut les enlever, mais ça va faire mal. Donc j'ai dit non. Et au bout d'une heure, je suis retourné de nouveau sur le terrain. Et on est resté.
Oui. Quand Sergueï est blessé, ça fait déjà plusieurs mois qu'un cessez-le-feu est en place, mais il est loin d'être respecté. En février 2015, un sommet a été organisé pour tenter d'imposer une trêve efficace.
Un accord de paix a donc été trouvé à Minsk sur l'Ukraine. Il aura fallu 16 heures de négociations entre François Hollande, Angela Merkel, Petro Poroshenko et Vladimir Poutine.
C'est-à-dire que partout, le cessez-le-feu est à peu près respecté. Ici, ça a des fourrailles comme ça, tous les jours. Ça veut dire que on doit être en début d'après-midi. Donc ça commence en général à 14 heures quand les Ukrainiens se réveillent. En général, c'est eux qui nous attaquent en premier, et ça dure comme ça jusqu'au soir. À partir de 17h, puisqu'il n'y a plus d'observateurs, c'est aussi l'artillerie qui rentre dans le concert, si on veut.
L'endroit dont parle Sergueï, c'est Avdiivka, au nord-ouest de Donetsk. Il raconte qu'il se déplace beaucoup, mais reste toujours plus ou moins dans la zone où il est arrivé en 2014. Comme les soldats d'en face, il vit avec ses compagnons dans les tranchées.
Ce qui fait qu'on a toujours les positions des Ukrainiens en face, on les voit... On les voit courir, on les voit nous tirer dessus, et à chaque fois qu'il y a des déplacements entre nos positions, dans la zone grise, on le voit aussi très très bien. Et sachant qu'il y a eu plusieurs tentatives pour essayer de capturer notre position, donc, ce qui fait que ici, on s'était beaucoup massacré.
C'est difficile pour nous de vérifier tout ce qu'avance Sergueï, mais quand il nous explique ça, il nous montre en même temps les positions qu'il dit avoir occupées sur Google Maps. Sur les images satellites, on distingue des tranchées et des trous de but dans les champs.
Ouais, et donc, comme nous étions habitués, c'est devenu un genre de routine. Hein, on passait longtemps à se tirer dessus. Et des fois, on se filmait les uns les autres.
Ces vidéos, c'est le seul élément qui nous prouve que Sergueï était bien sur le terrain.
Le front n'est pas vraiment un endroit isolé. À quelques dizaines de kilomètres des tranchées et des tirs, il y a la ville et ses habitants qui vivent avec la guerre en fond.
Par contre, une fois que les accords de Minsk ont été signés, il y a beaucoup de gens qui sont revenus sur place. Et donc, si on voit au centre-ville Donetsk, bah, c'est une ville comme une autre, hein, qui bouge énormément. Hein. Il y a un couvre-feu, mais il y a des boîtes de nuit. Ça veut dire qu'il suffit d'aller dans la boîte de nuit avant 11h et tu restes jusqu'à 6h du mat. C'est facile, on peut tenir, je pense que chacun peut tenir. Hein. Et bon, et tout simplement, on se retrouve dans une ville d'Europe de l'Est comme une autre, hein, hein. Même si tu fais 500 mètres, tu es dans un quartier bombardé, hein. Mais au centre-ville, c'est comme s'il n'y a jamais eu de guerre aujourd'hui. Et même aujourd'hui, on va dire, les riches reviennent sur place. Ce qui fait qu'on peut se retrouver en centre-ville avec des grosses voitures, des Porsche, des Bentley, voilà, vraiment des caisses. Et il y a énormément de filles aussi, très bien habillées, et pas mal de mecs en costard. Hein, donc, on va dire, c'est un peu la vie à l'ancienne qui reviennent sur place. Par exemple, bah, ça m'est arrivé de voler des mecs aussi. Par exemple, bah, tu reviens du terrain, tu bois un verre avec un pote, et là, tu te fais aborder par des civils à Donetsk qui disent « Ouais, vous êtes nos héros. » Bah, du coup, tu discutes avec ce mec-là et tu te rends compte qu'en fait, aussi ce mec-là, il aurait pu très bien accomplir le devoir que j'ai fait à sa place. Hein. Donc ça nous est arrivé, par exemple, de dépouiller ce genre de clients pour après se payer des verres, parce que nous, on n'était pas payés.
Hein. En fait, Sergueï et ses camarades reçoivent une petite solde, environ 200 euros d'après lui, qui leur permet de subvenir à leurs besoins sur place. Le reste proviendrait de donateurs en ligne et aussi de prises de guerre.
En 2016, la dernière fois que Sergueï part au combat, plusieurs dizaines de Français seraient partis rejoindre les milices pro-russes.
Ils ont entre 25 et 26 ans, portent le treillis, des casquettes militaires et des croix de l'église orthodoxe. Ils arborent également fièrement les cuissons de la Nouvelle-Russie chère à Vladimir Poutine, panoplie habituelle pour des séparatistes pro-russes. Sauf que ces quatre jeunes soldats sont français, fraîchement arrivés dans l'est de l'Ukraine pour combattre l'armée de Kiev. Ils n'ont qu'un objectif, libérer l'Ukraine de l'Union européenne.
Au total, c'est près de 8000 combattants qui sont morts dans l'est de l'Ukraine depuis le début du conflit. Pro-russes comme pro-Kiev, les histoires se ressemblent, les pertes sont nombreuses et quotidiennes.
Oui, sur nos camarades, on les pleure après, quand on les enterre. Personnellement, j'ai jamais entendu parler de vengeance particulièrement parmi nous, hein, dans ce cas de situation. Mais des camarades, j'en ai enterré beaucoup en 2014, en 2015, en 2016, à chaque fois. Ça fait presque partie du quotidien d'une rotation. C'est que on rassemble le matériel, on se prépare. On y va, on fait notre travail et on rentre. Et on rentre donc avec nos blessés, avec nos morts. Ensuite, on les enterre en essayant de respecter les cérémonies d'après leur religion à eux. Je pense qu'on n'était pas à ça près, quoi. Et ça fait partie du quotidien, en gros.
Глава третья. Вернуться.
En 2016, Sergueï rentre en France. D'après lui, c'était la dernière fois qu'il partait se battre en Ukraine. Pourquoi ? On y vient. Mais pour l'instant, restons avec lui à son retour. Quelques mois ont passé et tout n'est pas aussi facile que prévu.
Alors, mon premier séjour, comme j'avais dit, je suis passé incognito. J'avais été repéré par personne. C'est mon deuxième séjour qui m'a valu une convocation chez la DGSI. Et je pense que j'avais été dénoncé par un des Français, tout simplement.
Sergueï préfère ne pas répéter ce qui s'est dit pendant cette rencontre. Mais il affirme que depuis, il est dans le radar des autorités.
C'est la panique à l'aéroport, quand tu passes les contrôles passeport. En plus, une fois, je suis passé après les attentats, donc il y avait un flic de la PAF, là, police aux frontières. Et à un moment donné, il avait pris le combiné, donc il était en train de parler comme ça, devant moi, dans la cabine. Mais en fait, il était tellement paniqué, il était tout rouge et il criait. Il dit « J'ai un fichier, c'est extrêmement potentiellement dangereux, qu'est-ce que je fais ?» Voilà. Et à un moment donné, il s'est barré en courant et il est revenu. Bon, et il m'a laissé passer. C'est comme ça que j'ai su que j'étais fiché.
Fiché S, extrême droite. On a parlé à un expert du centre d'analyse du terrorisme qui nous a expliqué qu'à partir du moment où quelqu'un rejoint un groupe armé à l'étranger, il est susceptible d'être fiché. Et puis Sergueï a aussi des fréquentations un peu particulières.
Dans la manifestation où je l'ai interviewé pour la première fois, il était avec plusieurs membres de groupes identitaires et visiblement proche de l'extrême droite.
Je ne me suis jamais senti proche du, comment dire, du milieu, bah déjà identitaire, non. Extrême droite en général, non. Hein. Même si, bon, quand j'avais 16 ans, je faisais de la boxe, et donc dans ces milieux-là, j'avais rencontré pas mal de gens plutôt au mouvement identitaire, oui.
Pour mieux cerner le personnage, on a rencontré Anne-Laure Bonnel. Elle est documentariste indépendante et elle a rencontré Sergueï à Genève en 2017 pendant une conférence des Nations Unies sur le Donbass.
Je vais commencer par donner la parole à Anne-Laure Bonnel, réalisatrice qui va nous présenter un petit film.
Elle est venue parler du film qu'elle a produit au Donbass, où on voit la guerre à travers les yeux des civils.
Je suis partie dans le Donbass alors que ce n'était pas un sujet qui me concernait outre mesure. Après avoir découvert le massacre d'Odessa, dont j'avais très peu entendu parler dans nos médias français.
Sur la vidéo, Sergueï a l'air un peu plus jeune. Il est assis à côté d'Anne-Laure Bonnel, et alors qu'il revient de 3 déploiements en zone de guerre, il parle énormément de paix.
Pour terminer, même aujourd'hui, moi, en tant que Français d'origine ukrainienne, je n'ai aucune envie. Et j'y étais il y a encore 2 jours, et les gens que j'ai vus là-bas peuvent répéter exactement la même chose. C'est que moi, je ne vois aucun intérêt à tuer des Ukrainiens pour un pouvoir qui ne nous représente même pas. Je n'ai aucune envie de faire ça. Ce que je veux, c'est la paix. Tout le monde veut la paix. Les soldats ukrainiens, les conscrits qui sont en face, eux aussi, ils veulent la même chose.
Après la conférence, Anne-Laure va parler à Sergueï, et notamment de l'extrême droite.
Alors, moi, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il avait été à l'âge de 16 ans au Front National, et que maintenant, il n'était plus du tout politisé d'une quelconque manière. Alors peut-être que, moi il connaît mon positionnement hein, sur la politique, et l'extrême droite, je ne la connais pas et je ne veux pas la fréquenter. J'ai le sentiment qu'elle pratique comme tous les partis aujourd'hui une politique politicienne et qu'elle n'a aucune éthique ni aucune intégrité. Donc ces gens-là, je pense que s'ils les fréquentaient, ce que je doute, ils ne m'en auraient pas parlé. Je suis intransigeante sur les politiciens. Donc je pencherais davantage sur quelqu'un de sensé et d'engagé. Je crois que c'est son père ou sa mère qui est ukrainienne, donc il est concerné, il est légitime pour parler de ça. Maintenant, l'envie d'en découdre, c'est peut-être dû à l'âge.
Alors je ne sais pas si je fais partie d'une espèce en voie de disparition, hein, mais c'est vrai que je pense que nous avons des individus qui ont peut-être plus de disposition pour s'engager, pour faire le coup de poing, coup de feu, à un moment donné. Mais c'est comme ça. Il y en a, et comme quoi il y en a beaucoup, parce qu'on se retrouve entre gens du monde entier, en fin de compte, pour ça.
Pourtant, même s'il a cette espèce de vision romantique de la guerre et du combat, Sergueï ne vante pas non plus son engagement en Ukraine à ses anciens camarades du lycée militaire.
Pour la plupart, ils considèrent que... Enfin, ils m'envient en général, ils considèrent que j'ai fait un meilleur choix qu'eux. En même temps, moi, j'avais des raisons personnelles de le faire. C'est pas leur cas, aussi. Et je souhaiterais pas qu'ils fassent la même chose, aussi. Ça veut dire que dans leur pays, il y aurait la guerre civile. Et franchement, ceux qui veulent faire une guerre civile, ce sont vraiment des fous. Parce qu'ils ne savent pas... Alors, soit ils savent et ils veulent vraiment de la violence, soit ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Hein. Et des comme ça, il y en a beaucoup. Donc, ce sont des gens qui ne mesurent pas la conséquence des choses. C'est vrai qu'ils balancent des idées, ils veulent tuer un tel, ils veulent s'affronter, combattre, tuer, détruire. Bah, seulement, ils ne savent pas que ça finit toujours dans un bain de sang, comme ça a été en Ukraine.
C'est quelqu'un que j'avais trouvé intéressant, dans le sens où il parlait de paix, et c'est un mot qu'on avait très peu entendu lors de cette journée. Et généralement, des combattants, lorsqu'ils confrontés à premier chef à un conflit, voient la barbarie d'une guerre, sont les mieux placés pour en parler.
Moi, je suis devenu beaucoup moins violent. Parce qu'on sait à peu près de quoi les humains sont capables. Moi, je sais ce que ça donne. Je crois que j'ai vu quasiment sous toutes ces formes. Et je sais que tout ce que je souhaite à tout le monde, c'est de l'éviter.
La violence que tu as pu commettre aussi en temps de guerre, est-ce que tu la regrettes ?
Non. Alors, dans l'absolu, oui, parce que, comme j'ai dit, nous sommes juste entretués entre jeunes qui étions très bien dans les mêmes universités, dans les mêmes écoles. Nous sommes exactement les mêmes, nous sommes de la même origine sociale aussi. C'est-à-dire que nous sommes massacrés entre nous. Donc oui, dans l'absolu, oui, c'est regrettable. Mais en même temps, il y avait un devoir à faire, et je pense que j'ai fait mon devoir. Et je pense pas avoir fait une erreur.
Malgré son attrait pour l'armée, la guerre et ce genre de choses, Sergueï ne se voit pas comme un type en manque d'adrénaline qui court les conflits.
Si en Ukraine, il y a quelque chose à faire, j'irai forcément, parce que ça sera mon devoir. Mais sinon, non, il n'y a pas spécialement de conflit qui m'attire en tant que tel. Il peut y avoir des offres de travail, notamment liées à la sécurité, qui peuvent m'intéresser, évidemment. Aujourd'hui, je ne vois pas de conflit, on va dire, qui aurait des portées, qui aurait un sens significatif, hein, qui mériterait qu'on s'y engage. Hein.
Donc c'était unique pour toi, l'Ukraine, en quelque sorte.
Ah oui, bien sûr. C'était unique, et comme j'ai dit, c'était un engagement d'un simple Ukrainien, un engagement envers sa terre et sa famille. Un engagement de sang, si on veut.
Un engagement de sang qui coûte à Sergueï.
Alors, 4 ans de ma vie déjà, pour commencer. Une partie de ma famille, donc pro-ukrainienne, avec laquelle nous sommes séparés. Ma copine, ma carrière militaire. Un peu de mon foie aussi, hein. on va dire une partie de la jeunesse aussi, dire les années étudiantes, quand on commence à découvrir un petit peu la vie, un peu, on va dire, l'autonomie, hein, par rapport à ses parents. Cette période là en fait, je l'ai pas connue, je l'ai complètement zappé entre l'armée et cette guerre. Donc oui, on sent comme il y a une partie de notre vie qui a été sacrifiée. Bon, on a vécu des choses que beaucoup ne pourraient jamais vivre dans leur vie, que beaucoup pourraient envier. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose de vraiment enviable. Parce que après, il s'agit d'un poids avec lequel on passe tout le reste de notre vie. En fin de compte, faire la guerre, c'est quoi ? C'est vrai qu'en me donnant un fusil, je mets dans une tranchée et je vais tirer sur celui qui est en face. Et celui qui est en face, il fait la même chose. Et il se trouve que c'est le même jeune Ukrainien en face qui fait la même chose et qui me tue. Seulement, moi, on me dit que ce sont des Ukrainiens à la solde des États-Unis, et eux, on leur dit que nous sommes des Ukrainiens à la solde de la Russie, voire des militaires russes réguliers. Et donc, on s'entretue entre nous, alors qu'il suffit, la tranchée d'en face, s'ils sortent, qu'on aille se rencontrer, on verra que nous sommes les mêmes gars et dans les mêmes conditions, et qu'on s'entretue pour des intérêts d'oligarques qui, eux, partagent du fric à une très grande échelle.
Aujourd'hui, malgré les accords de Minsk, le cessez-le-feu est régulièrement violé. 10 000 personnes sont mortes au total, civils et militaires confondus, alors que la ligne de front s'est à peu près figée.
Ce qui fait que la guerre continue aujourd'hui. Mais elle continue sans aucun but précis. Ce qui fait que les gens continuent à se massacrer, mais nous, on a combattu parce qu'on avait un ennemi et qu'on voulait repousser de nos terres. Par contre, il est vrai que je garde toujours une espèce de nostalgie, hein, de ces moments passés. Pas comme des moments mauvais, mais plutôt comme les meilleurs moments, hein, peut-être même de ma vie, oui. Il y a une espèce de tristesse, d'ennui, oui, de nostalgie par rapport à cette époque passée. Mais aujourd'hui, on se massacre pour rien. Et c'est pour ça que j'ai fini par abandonner le combat, parce que je vois pas l'intérêt de continuer à faire ça.
Maintenant, Sergueï cherche un travail. Pas facile avec un passé comme le sien. Une simple recherche sur Internet permet de connaître les détails de son engagement.
Son objectif, c'est de trouver un emploi dans le domaine de la sécurité. Mais tant que la guerre déchire l'Ukraine, Sergueï n'exclut pas de reprendre les armes.
Merci à Sergueï Mounier et Anne-Laure Bonnel pour leur témoignage, ainsi qu'à Ruslana Tsiba pour son aide. Programme B, C'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess et réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller, programme@binge.audio pour nous écrire, et à lundi pour un nouvel épisode.
Binge.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.